À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Françoise Huguier, photographe éventuellement, mais très curieuse.
Bonsoir Françoise Huguier.
Bonsoir.
Alors j'ai intitulé ce troisième épisode « La Duchesse de Bamako » parce que j'ai ouï dire que c'est comme ça qu'on vous appelle au Mali.
Oui, c'est Agnès de Guyon-Saint-Cyr qui était au ministère de la Culture, qui était venue pour la première biennale que j'ai créée et qui m'a appelée la Duchesse de Bamako. Donc c'est resté.
Ça vous va ?
Oh, bon, pourquoi pas.
Ça vous plaît ?
Bon, oui, finalement oui.
Ce pays, le Mali, vous le connaissez depuis longtemps maintenant, puisque vous avez fait un premier voyage en 1982. On vient souvent aux années 80 encore.
Oui,
hein.
Encore.
On va avancer dans le temps, mais quand même. En 1982, vous avez été au Mali pour un reportage sur deux musiciens, Salif Keïta et Mori Kanté.
Oui, tout à fait. Pour Rock and Folk. Et je connaissais rien du tout. Hein. Je revenais du Japon, d'Asie. Moi, l'Afrique, ça ne me tendait pas du tout.
Donc, pourquoi ?
Parce que vous saviez je préférais pas. L'Asie, oui. Puis je connaissais rien du tout, pas l'histoire, je connaissais rien du tout. Et moi j'ai un ami qui m'a dit, alors au Japon il y a deux langues, il y a la langue des femmes et la langue des hommes. Hein. Et il m'a dit, tu sais au Mali, il est anthropologue, et il m'a dit, tu sais au Mali il y a aussi le langage pour les femmes et le langage des hommes. Ah j'ai dit, oh, bah tiens, pourquoi pas. Et donc, on m'a proposé ce sujet-là. Il y avait une journaliste qui était avec moi. Et moi, je faisais les photos. Donc, Mori Kanté et Salif Keïta, que je connaissais rien du tout. En musique,
non plus à la musique.
Alors, rien du tout.
Vous étiez resté sur le métal en Asie.
Oui, mais après, oui. Et je connaissais rien du tout. Et donc, du coup, quand je suis arrivé, il y avait un concert de Salif Keïta. Donc, j'ai été le photographier. Et puis, lui, il vient de Kangaba, la famille Keïta est originaire de Kangaba, qui est presque à la frontière de la Guinée. Donc, la journaliste lui a dit, bah, écoute, j'aimerais bien te prendre avec ta famille et tout. Il a dit oui. Et puis, il est jamais venu nous rejoindre. Mais par contre, du coup, il m'avait dit, tu sais, va voir mon marabout. Alors, le marabout était extraordinaire parce que, il était noir et blanc, il a cette espèce de maladie de la peau là qui est... et là il y a un personnage, j'ai retrouvé les photos là l'autre jour, c'est absolument incroyable. Et puis Mori Kanté, lui, jouait à ce qu'on appelait le Centre culturel français, maintenant on appelle ça autrement, et il y avait un concert, donc j'ai été au concert. Et puis j'ai dit, j'aimerais bien suivre Mori Kanté dans sa tournée, je sais qu'il fait une tournée au Mali. Alors ils m'ont dit, bah écoute, il y a un guitariste du Super Bouton de Ségou qui doit s'occuper de sa tournée, donc va le voir. Alors Mori me dit, bah écoute, il est chez son ami le capitaine, donc je vais. Il était sous la douche et puis il sort de la douche, et Mama Sissoko. Je lui dis, ben, je voudrais suivre Mori Kanté. Ah non, nous, on prend pas de groupie. Bon, d'accord, ça commençait bien. Je lui dis, je suis pas une groupie, je suis photographe. Ah bon? Et donc, finalement... Et alors, moi, je voulais pas aller dans le taxi. Il y avait des taxis-brousse à l'époque. Et moi, je voulais être avec les musiciens, quoi, pas avec Mori Kanté, qui avait une voiture spéciale, etc. Donc, j'étais un musicien. Alors, Mama Sissoko m'a dit, mais non, ça va pas, non. Bon, va avec Mori Kanté. Donc je dis, il n'en est pas question, moi je vais avec les musiciens. Parce que comme je ne connaissais rien du tout, les musiciens m'expliquaient tout.
Vous disiez dans un épisode précédent que vous documentiez beaucoup quand vous alliez, avant d'aller dans un pays. Vous lisiez des livres, rencontriez même des chercheurs, vous voyiez des films.
Mais là non. Mais là, non.
Pourtant, vous aviez peur de photographier au Mali.
Ben oui, mais...
Tout ça aurait dû vous amener à vous documenter encore plus que...
Oui, ben non, c'est venu comme ça.
D'accord.
Et moi, j'ai appris avec les musiciens énormément de choses, parce qu'en plus, j'habitais avec eux dans leur hôtel, parce que Mori Kanté me disait, viens chez le maire, coucher dans la maison du maire, pas dans ma chambre, mais avec moi, et chez le maire. Et moi, je voulais être avec les musiciens, parce qu'eux, ils me racontaient toute l'histoire des grands empires. C'est comme ça que j'ai appris. Les grands empires avant la colonisation, l'empire mandingue, et puis toutes les paroles et tout, c'est comme ça que j'ai tout appris. C'est comme ça que j'ai appris que les droits de l'homme, ben c'est l'empire, c'est le 15e siècle, pendant l'empire mandingue, avant la Révolution française. Hein. Oui, c'est l'empire avant la colonisation, quoi. ok, parce que il y a pas beaucoup de gens qui le savent ici, hein. On a même eu un président de la République qui est arrivé dans un pays en Afrique en disant que les Africains feraient bien de pas connaître leur histoire, mais être dans la modernité, dans c'est ça, oui, dans l'histoire. Ben tiens, on pourrait lui apprendre ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris avec les musiciens. En plus, je pouvais aller dans les familles, parfois même les prostituées. Donc ça, ça m'a aidé énormément, ça m'a ouvert des portes, quoi. Parce que pour un photographe, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vous ouvre les portes. Ça s'appelle des fixeurs, hein. Quelqu'un qui vous ouvre les portes. Et en plus, il parlait la langue. Moi, je la parlais pas, évidemment. Beaucoup parlent, au Mali, on parle beaucoup français, mais quand même, il y a des régions où les gens ne parlent pas forcément français.
Donc, vous avez aimé ce pays?
Bah, alors, du coup, je suis tombée amoureuse de ce pays. J'ai adoré ce pays. Et puis,
Et au point de vouloir y retourner.
Voilà. Et puis, à un moment, quand j'ai commencé sur les traces de l'Afrique fantôme, donc de Dakar à Djibouti, il y avait une maison au bord du fleuve à Ségou qui était à louer. Donc c'était un commerçant, donc j'ai loué, c'est une maison en terre, sans eau, électricité. Donc j'ai loué cette maison, et puis après j'y suis revenu, après avoir traversé l'Afrique, j'y revenais tous les ans, 2 ou 3 mois. Quoi.
Alors Zung Rewind, parce que vous êtes allé très vite là, Françoise oui. Huguier, sur les traces de l'Afrique fantôme, c'est un livre que vous avez fait, sur les traces, vraiment il faut détacher chaque mot, de l'Afrique fantôme. L'Afrique fantôme étant un livre
de Michel Léris,
l'écrivain, qui est une sorte de carnet de route qu'il a tenu lui dans les années 30, hein, 1931-1933, lors d'une mission de Dakar à Djibouti, mission dont il fut lui le secrétaire archiviste. Et cette mission, c'est une mission très importante, parce que ça a été la mission dirigée par Marcel Griaul, qui était un ethnologue, c'est ça, hein, cette mission connue comme la mission Griaul.
Et la mission Griaul.
D'ailleurs, oui. A laissé des traces pas toujours très positives, puisque c'est, oui. Elle avait une dimension colonialiste, hein, cette
tout
mission. Ils ont été accusés de vol d'objets, etc. Oui. Mais racontez-nous comment vous êtes tombé sur ce livre, déjà, L'Afrique fantôme.
Bah, c'est toujours, en revenant du Mali, là, après mon aventure
musicienne,
j'ai revu mon ami qui m'a dit, tu sais, tu devrais lire le livre L'Afrique fantôme de Michel Léris. Donc je l'ai lu, j'ai rencontré Michel Léris en disant j'aimerais bien le faire. Donc je l'ai rencontré quand il habitait à Paris, là, sur les quais. Donc je l'ai rencontré et je lui ai demandé la permission si je pouvais faire ça. Il m'a dit, ben, il n'y a aucun problème.
L'idée, c'était d'aller faire un reportage photo avec ce livre comme
guide
comme de voyage.
Comme guide du retard. Vous savez, à l'époque, nous, on avait le guide du retard. Donc comme guide de retard. Donc c'est, je l'ai encore, il est annoté. Et ça m'a servi exactement à ça. Donc de Dakar à Djibouti, donc j'ai fait ça pendant un an.
Donc de Dakar, Sénégal, à Djibouti, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan, l'Éthiopie. Accompagné de l'écrivain reporter Michel Cressol,
oui, qui était à Libération, qui n'est pas resté pendant tout le voyage, parce que lui, il travaillait à Libé. Donc il est venu avec moi au Nigeria et puis en Éthiopie. En Éthiopie, c'était... Bon, maintenant, c'est impossible à faire. Mais en Éthiopie, c'était Mengistu. Et Mengistu, qui était communiste, et qui il n'y avait plus l'empereur. Et là, il y avait la guerre avec l'Érythrée.
Et donc... On est entre mai 88 et janvier 90.
C'est ça,
hein,
oui, c'est ça.
Resté un peu plus d'un an.
Donc, c'était en guerre, en Éthiopie, et on voyait les camions qui revenaient avec les blessés. On avait l'impression, Michel et Cressol, ils disaient, on a l'impression que c'est la guerre de 14-18, avec tous les gens qui étaient blessés, sans jambes, etc.
Mais ça, vous photographiez pas tout à l'heure.
Non.
Hier, dans une émission précédente, vous nous avez dit que vous n'étiez pas photographe de guerre.
Non, mais j'ai pas été sur les conflits, quand il y avait des conflits. Mais par contre, on voyait les camions revenir, hein. Ça, c'est sûr. Et puis, en Éthiopie, j'étais suivie tout le temps. Et donc, j'avais demandé à l'ambassade si c'était possible, mes pellicules, que je les rende, que je les amène à l'ambassade. Il y a la valise diplomatique. Donc, toutes mes pellicules de l'Éthiopie sont revenues par la valise diplomatique. J'étais suivie comme on était en guerre. Donc, ils n'avaient pas confiance aux Français, à moi, Française. Donc, j'étais suivie tout le temps de loin, comme ça. J'étais tout le temps suivie, je savais. Et donc, une fois, j'étais en Érythrée, parce que Michel Léris est passé par l'Érythrée aussi. Et en revenant à l'aéroport d'Addis Abeba, je voyais que, effectivement, on était fouillés, puis qu'il y avait qu'un mec qui me regardait. Eh ben, j'étais aux toilettes, je suis passé par la fenêtre, puis j'étais directement à l'ambassade, mettre mes pellicules.
de ce périple hein, qui a duré donc plus d'un an, vous avez tiré un livre.
Oui.
Sur les traces de l'Afrique fantôme,
voilà,
paru chez Mag Éditeur avec les textes de Michel Cressol. Et en couverture de ce livre, l'une des images emblématiques de ce voyage que vous évoquiez hier, Françoise Huguier, le fameux pêcheur Bozo, qui est devant vous là.
Oui, oui tout à fait.
Posé dans votre pièce, la pièce où nous sommes.
C'est
vous la décrivez cette photo?
Alors c'est rare que chez moi il y ait une photo de moi.
Oui.
C'est très rare. Donc celle-là,
il y en a deux, trois hein, dans la
oui,
pièce.
Il y en a deux.
On va en profiter, on va les regarder ensemble.
Oui, oui. Et alors celle-là, je vais essayer de la décrire. Donc c'est au bord du Niger. Et moi, j'avais été à Tombouctou. Et on m'a dit, tu sais, il y a des hippopotames dans le Niger. Alors moi, les hippopotames, ça me faisait rêver. Hein. Peut-être pas vous, mais moi, ça me fait rêver. Oui. Et donc, j'étais sur une pirogue avec ce qu'on appelle l'ethnie du fleuve, c'est les Bozo, donc le pêcheur Bozo. J'étais derrière, et puis les hippopotames, on a été les voir, et puis c'était deux petites oreilles. Donc je me suis dit, en photo, ça va pas être terrible. Hein. Et tout d'un coup, miracle, il y a un troupeau de l'autre côté du fleuve, un troupeau de dromadaires, qui passe, donc je photographie, j'ai encore la planche contact, je photographie, puis tout d'un coup, miracle, le pêcheur Bozo baisse la tête, il a sa rame là qui est sur le côté droit de son dos, et sur son épaule est posé le dromadaire. Et je dois dire, à chaque fois que je le raconte, si j'avais été en numérique, j'aurais regardé, j'aurais raté la photo.
Pourquoi?
Parce qu'on a tendance à regarder. Et là, c'est une seconde, hein, même pas une seconde.
C'est ce qu'on appelle l'instant décisif.
C'est ça, l'instant décisif. C'est une seconde. Et en plus, en la re-regardant, dans la planche contact, j'ai eu du mal à la choisir, parce qu'il y en avait plein, et puis plus je la regarde, bon, il y a effectivement le dromadaire, mais le dos du mec est absolument incroyable. Le dos du pêcheur Bozo est incroyable. C'est une vraie sculpture, hein, le dos.
Et de toute façon, vous aimez bien les dos, alors oui. Parce que puisqu'on y est, continuons, oui. Françoise Duguier. L'autre photo, mais je vais la dégager si ça vous ennuie pas, parce que
non,
là, elle est recouverte d'autres cartes postales.
Oui, oui, oui.
L'autre photo est aussi une photo de dos.
Mmh, mmh. Alors ça, c'est une de mes voisines, quand j'avais ma maison à Ségou, dans le quartier Somono, donc les gens du fleuve. Donc j'avais la maison, et puis évidemment, elles venaient me voir, et puis moi, je leur demandais de les prendre en photo. Et je les pris effectivement de dos. Et quand j'ai sorti le livre, c'est la couverture du livre, secrète, quand j'ai sorti le livre, mes amis maliens m'ont dit « Écoute, c'est formidable parce qu'on ne donne pas d'âge. » Et comme elle est de dos, ça peut être une très belle femme ou une femme très moche. Et donc, effectivement, ça nous fait partir dans des rêves. Ça, c'est mes amis maliens, hein, parce que j'ai ramené le livre, puis j'ai exposé à Bamako. Donc, c'est mes amis maliens qui disaient ça. Et effectivement, c'est le dos. C'est pareil.
Si on sort le livre sur les traces de l'Afrique fantôme, Françoise Huguier, est-ce qu'il y a des images qui sont plus importantes que d'autres pour vous? Là, je vois bien, vous levez les yeux comme si vous réfléchissiez auquel on peut sortir le livre, hein, si vous préférez.
Mais non, il y en a qui viennent nord du Nigeria, où c'était la fête de fin de Ramadan. Et là, il y a... Bon, c'est des émirs, hein. Et j'étais à Sokoto, et à Sokoto, il y avait l'émir de Sokoto, qui, grâce à une lettre de l'ambassade de France, j'ai pu le rencontrer. Alors, quand on le rencontre, il faut s'étaler par terre. Enfin, nous, on l'a pas fait, mais tout le monde sait. Oui. Et l'émir ne vous parle pas directement. Ben, c'est un peu comme... c'est quand même un peu au Mali avec le griotisme. Il vous parle pas directement, donc il faut parler à son interprète, je sais pas comment le dire trop. Et donc, on le parle à lui, il faut jamais le regarder de face. Et on parle à lui, il pose la question à l'émir, et l'émir nous répond directement. Là, il a le droit de nous regarder. Et nous, on n'a pas le droit de le regarder directement. Donc, et après, il y a eu la fête, bon, le fin Ramadan, et là, c'était extraordinaire, parce qu'il y a toutes les ethnies, à cheval, pas à cheval, des Peuls, des Fulani, ce qu'on appelle les Fulani au nord du Nigeria, il y a qui est là, qui font une parade et tout, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et ça, toute cette partie du nord du Nigeria, tout le monde m'avait dit le Nigeria. J'avais déjà été à Lagos, mais tout le monde m'avait dit le Nigeria. Attention, c'est très dangereux, etc. Bon, effectivement, ça peut être dangereux, Mais là, là, c'était, mais c'est une fête, c'est un péplum, hein. Vous savez, au cinéma, le péplum, ben, c'était un vrai péplum. Les défilés, c'était un, devant l'émir, hein, c'était un vrai péplum. Et l'émir était à cheval, avec un vêtement absolument extraordinaire, et il avait à côté de lui deux personnes qui étaient torse nues et qui avaient des éventails en forme de paon, quoi, avec des plumes de paon. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a été un moment très très important aussi. Il y a un autre moment important, c'était en Éthiopie, c'était aux sources du Nil bleu. Parce que moi, je ne savais pas que le Nil avait deux sources. Hein. J'ai appris ça comme ça, en voyageant. Et donc là aussi, on y a été là, c'est assez impressionnant aussi. Puis savoir que c'est la source du Nil, quoi. Une des sources du Nil, ça c'est important.
Donc il y a eu énormément de pays lors de ce voyage d'un an. Il y en a un que vous n'avez pas fait lors de ce voyage qui a donné sur les traces de l'Afrique fantôme et que vous avez fait après, plutôt milieu, fin des années 90, 95, 96, après l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Vous êtes allé à Durban 3 fois.
Oui.
Pour y photographier quoi ?
Alors, je voulais aller après l'apartheid, parce que moi j'aime bien photographier après. Donc je voulais photographier après l'apartheid. Et Claire Denis, j'étais sur ses films et Claire m'a dit, tu sais, Gandhi a commencé à Durban. Parce qu'effectivement, ça coulait de source que j'aille dans la capitale, enfin à Johannesburg. C'est Pretoria la capitale, mais surtout Johannesburg, la plus grande ville, ou à Cape Town. Donc elle m'a dit, tu sais, à Durban, il y a Gandhi qui a commencé là, qui était avocat pour les Indiens, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qu'on faisait venir d'Inde pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Donc effectivement, j'y ai. Effectivement, il y avait encore la maison de Gandhi, mais qui était un peu abîmée. Ça y est, maintenant, ils l'ont restauré complètement. Et puis, ben, je me suis prise au jeu. Donc, j'ai été dans les bidonvilles, dans les hostels. Les hostels du temps de l'apartheid, ça existait. C'est les gens de la campagne qu'on amenait dans des bâtiments assez horribles pour travailler. Puis surtout, il y avait l'époque entre l'ANC et l'Inkatha, c'était les Zoulous, et l'ANC, donc le parti de Mandela, et il y avait des bagarres entre eux. Donc il y avait effectivement des endroits où les gens de l'ANC, on les mettait là parce que sinon ils étaient massacrés. Donc c'était tout un système. Puis le port aussi, le port de Durban. Donc il y avait pas mal de bateaux russes aussi. Donc j'étais sur les bateaux aussi. Et puis il y a une secte aussi. Qui existe depuis très longtemps, et notamment pendant l'apartheid, et où c'est un village où il y a le coin des vierges, le coin des femmes, le coin des hommes, et le gourou, et on peut pas se tenir debout devant le gourou, il faut être à genoux. Et moi j'ai une photo où il a une Mercedes, bien sûr, je dis bien sûr, et il y a une jeune fille qui lui ouvre la porte à genoux. Ça, je l'ai vu, oui. Et je suis restée une semaine dans le village. Oui.
Ça fait partie des photographies que vous avez exposées à la Maison européenne de la photographie à Paris en 98.
C'est ça, voilà.
À l'extrême, c'est ça, travail dans le KwaZulu-Natal, en
exactement,
Afrique du Sud.
Exactement, exactement. Oui, oui. Mais ça a été passionnant, hein, parce que la preuve, c'est que j'y ai été 3 fois. Hein. Ça a été passionnant.
Vous y êtes allé 3 fois, mais moins qu'au Mali. Hein. Le Mali, c'est un peu devenu votre deuxième pays, quand même.
C'est devenu mon deuxième pays. Et puis, la Biennale, là, j'y retourne, parce que ils m'ont demandé si je pouvais venir, oui.
Vous y êtes revenu plusieurs fois. Beaucoup de Maliens vous considèrent comme l'ambassadrice du pays. Vous êtes devenue la photographe officielle de l'orchestre Superbiton. Et vous avez créé, en 1994, à Bamako, la Biennale de photographie.
En 1994, oui.
En 1994, la Biennale de photographie. Ça a été une bataille, quand même, avant d'avoir l'autorisation de le faire.
Moi, j'estimais que, en faisant les photos, j'estimais que le Mali était le pays de la lumière, hein. Puis il y a eu le film de Souleymane Cissé, Yélé, ça veut dire, c'est en bambara, ça veut dire la lumière. Et il a eu ce prix, il a eu un prix à Cannes grâce à ce film. Et en plus, il y avait le festival de Dakar et le FESPACO au Burkina, donc il n'y avait rien au Mali. Alors je dis, il n'y a aucune raison. Et les photographes sénégalais étaient furieux contre moi. Enfin, ils ne sont plus furieux du tout, mais... Et j'ai dit non, à l'époque. Et j'ai dit non, ce sera au Mali. Donc j'étais un peu partout en Afrique pour chercher des photographes. Donc en Afrique du Sud, en Tanzanie, Cameroun, un peu partout pour chercher les photographes. sur le continent, quoi.
Et puis, il y en avait quand même sur place, dont vous avez fait connaître le travail, qui sont maintenant des stars, hein, Malik Sidibé et Sédou Keïta. C'est vous, Françoise Huniez, qui les avez fait connaître largement au grand public français, deux immenses artistes.
Oui.
Racontez-nous comment vous les avez rencontrés.
Ben, je faisais un stage de photo avec un photographe, Malik Guisset, et tout d'un coup, je lui ai dit, mais moi j'ai toujours été dans tous les pays aller voir les studios TIS. Ça m'intéresse. Là, j'ai ramené par exemple j'ai retrouvé hier une photo du Népal d'un studio TIS, comme ça, c'est des photos de mariés. Bon. Et donc, au Mali, j'avais envie de le faire aussi. Et donc, à ce photographe, je lui ai dit, bah écoute, si tu peux m'emmener chez un studio TIS, il m'a amené chez Sédou Keïta. Et là, j'étais frappée parce que c'était...
Que vous ne connaissiez pas ?
Pas du tout. Dans sa chambre, il avait des cantines et c'était des boîtes, c'était hyper... Il y avait son studio qui marchait plus et c'était hyper bien organisé. Donc il y avait une boîte avec femmes, une boîte avec hommes, etc., etc. C'est doux, c'était très organisé. Donc il travaillait à la chambre 13-18. Et puis... Pour Malik Sidibé, j'avais un appareil russe qui s'appelle Horizon, qui est un appareil argentique, panoramique, et j'avais des problèmes. Et mon ami photographe m'a dit, tu sais, il y a Malik qui répare des appareils photo. Donc effectivement, j'étais chez Malik, puis comme je suis une curieuse et que je fouille partout, eh ben, j'ai vu les planches contact, je regardais partout des planches contact. Je lui dis, mais Malik, c'est quoi ? Eh ben, j'étais photographe pendant très longtemps. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, je reviens au mois d'août. Si ça ne t'ennuie pas, je vais essayer de voir avec tes planches contact qui étaient négatives. Et c'est comme ça que j'ai ramené j'ai encore les planches contact. Comme ça que j'ai ramené les négatives. Et on a fait des planches contact à Paris. Et pour Sédou, ça a été la même chose aussi. Et Sédou, on ne l'a pas exposé, mais on a fait une soirée Sédou Keïta à Arles. C'est la première fois qu'il a été vu en France. Et Malik, moi, je l'ai exposé au moment de la première biennale, dans un endroit qui s'appelle l'INA, qui est une école. Et donc, je l'ai exposé là pour la première fois.
Là-bas, vous voulez dire, à Bamako,
en 94.
Je dis que vous avez fait connaître leur travail en France. Est-ce que là-bas, d'abord au Mali et plus largement aussi sur le continent africain, ils étaient connus en 94?
Non, pas du tout.
Non.
Puis il y en a d'autres, hein, parce qu'il y en a, à Ségou, il y en avait un qui est formidable, que j'ai exposé à Luang Prabang quand j'ai fait la biennale de Luang Prabang. Mais il y en avait plusieurs, il y en avait un Mopti, il y en avait un Kai, il y en avait plusieurs. Hein. Alors effectivement, moi je suis tombé sur eux, donc c'est eux les plus connus.
Oui, c'est effectivement
c'est
ceux
ça.
Qui sont
mais
les
il
plus
y en a d'autres en Afrique, hein, parce que moi j'en ai vu, à Durban, il y avait des studiotistes aussi. Parce que dans mon bureau là-bas, j'ai deux photos de studiotistes de Durban, oui, que j'ai achetées chez eux.
Et depuis, parce que ça vous tient à cœur de transmettre cette connaissance et de connaître la jeune photographie, africaine.
Je faisais des workshops, puis ça s'était un peu arrêté. Mais quand même, les derniers workshops que j'ai faits, les photos, je les ai exposées à la médiathèque de Bobigny, puis ici. Et moi, je tiens à ce qui touche des droits d'auteur. Hein. Ça, alors, je suis intraitable là-dessus. Ben nous, on en touche, je ne vois pas pourquoi on n'en toucherait pas. Je suis intraitable, moi.
Et s'il en est question de ne pas les payer? Bon, manifestement, oui.
Oui. Donc, moi, je suis intraitable. Il y a des droits d'auteur pour nous, je ne vois pas pourquoi. Pour les autres, des gens qui viennent d'ailleurs et pas des droits d'auteur. Voilà.
Les rencontres de Bamako, c'est devenu une biennale de la photographie, un rendez-vous incontournable.
Oui.
Très, très, très important dans le monde de la photographie, oui. Qui a encore lieu. Ça n'a pas eu lieu, malheureusement, à cause de la pandémie. Mais les choses reprennent leur cours au moment où nous enregistrons, là, en 2022. Il est question, d'ailleurs, que vous y alliez. Françoise Huguier, c'est un moment important pour vous de vous rendre là-bas.
C'est un moment très important parce que moi je suis pas au courant de tout ce qui se passe en Afrique en photographie. Au Mali je sais plus, hein. Mais par exemple en Guinée, au Cameroun, moi je sais plus très bien ce qui se passe parce que en Afrique du Sud un peu plus. Mais et là pour moi c'est important de voir ce qui se passe et quelles sont les inspirations des photographes.
Pour vous mettre à jour.
Pour me mettre à jour, exactement.
Et dans les derniers que vous avez vus, justement, quelles sont ces inspirations ? Qu'est-ce que vous avez vu alors, fort?
Il a exposé, mais maintenant il expose à Deauville, en ce moment c'est Diop, Omar Diop.
Omar Diop.
Je suis passée à la radio avec lui. Et lui, effectivement, il n'était pas photographe, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et alors effectivement, il a une certaine influence. Il a une certaine influence et on voit qu'il y a une certaine influence. Il y a très peu de documentaires. Très peu de documentaires. Et puis alors, comme maintenant au Biennale, il y a des thèmes, donc j'ai un peu peur que les photographes se collent aux thèmes.
Parce qu'en 1994,
notamment,
il n'y avait pas de thème.
Non.
C'était totalement libre, c'était carte blanche.
Oui. Et puis, je ne sais pas trop si je peux le dire, mais maintenant, il y a beaucoup de photographes. La dernière fois, il y en avait 85. Là, il y en a 70-75. Et là, il y a 4 photos par photographe. Vous ne pouvez pas juger un photographe sur 4 photos. C'est impossible. Il faut au moins 10 photos ou 15 photos. Vous voyez, dans tous les festivals du monde entier, il y a au moins 10 ou 15 photos. 4 photos, vous ne pouvez pas juger un photographe. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est mon idée. C'est la mienne.
C'est l'idée, hein, que vous donniez votre idée à vous
pendant
ces entretiens, François Huguier.
Et moi, je voyais, quand j'ai fait photoquai pour le Quai Branly, là, c'était que des photographes étrangers qui n'avaient pas exposé en France. C'est pareil, il n'y avait pas 3 photos, quoi. Il y avait au moins 10 ou 15 photos, quoi. On avait quand même 40 photographes. Hein.
Bon, le message est entendu.
Voilà.
On verra s'il est reçu.
On verra s'il est reçu.
Merci, François Huguier. À demain pour le 4e temps de cette série.
À demain. Et merci, merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.